Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f- So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Got gun. Hulk left, slot.
Dixie left. Key left.
Mercedes. Wide chip. Ricky.
Fever left. 75. Katie. Omaha.
We're going.
Last play of the game. Who's going to win it? Luck rolling out to the right. Ducks it up to Donnie Avery.
Yeah!
Go ahead. Goal line. Touchdown. Touchdown.
Touchdown.
Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 512 du podcast Touchdown Actu. Alain Mathé, très heureux de vous retrouver pour débriefer la troisième semaine de la saison NFL. À mes côtés, ils sont là, fidèles au poste. Grégory Richard, bonjour.
Bonjour Alain, bonjour messieurs, bonjour à tous.
Grégory, ce superbe papier peint, je peux pas m'empêcher de le mentionner parce que
vraiment
le papier peint est plein de charme aujourd'hui.
Je vais essayer de le mettre en grand écran, malheureusement les auditeurs ne le verront pas.
On est dans des nuances de bleu vert assez magnifiques et les gens nous demandent mais pourquoi vous faites pas les émissions en direct sur Twitch, et c'est ce soir que je me le demande, tu vois.
Oui, moi aussi, ouais. Là, j'essaie vraiment de te le faire regretter un petit peu.
Oui, là vraiment, là je regrette. Les petites boiseries en plus aux murs peintes, en plus du papier peint. Enfin, il y a vraiment beaucoup de choses dans cette décoration.
On peut appeler ça de l'art abstrait, je pense.
C'est une décoration un petit peu chargée, dira-t-on. Enfin, en tout cas, c'est pas mon style. Je suis plus épuré. Raphaël Masmejean, bonjour.
Salut à tous.
On est reparti donc pour la troisième semaine. On va revenir un peu sur tout ce qui s'est passé dans cette troisième semaine. Et beaucoup de choses avec des Jaguars en forme, Lamar Jackson intenable, des Raiders au fond du trou, les Eagles au sommet de la NFC. Oui, ça fait plein de choses dont on va parler et c'est maintenant.
Actu, analyse, résultats, toute l'actu de la NFL, c'est sur touchdownactu.com.
Les Jaguars 38, Chargers 10, ça y est, il est là. Deux victoires pour Trevor Lawrence et les Jaguars. Jacksonville en tête de la AFC Sud. Enfin, on parle des Jaguars en début de podcast. Probablement une première depuis la finale de conférence et Blake Bortles. Greg, est-ce qu'on commence enfin à avoir ce qu'on nous avait promis avec Trevor Lawrence ?
Mais bien entendu, ce n'était qu'une question de temps. Non, alors oui.
Je vous préviens parce que Greg rigole déjà tout seul. Il est très très chaud aujourd'hui. Il a fait des jeux de mots hors antenne avant qu'on commence. Il est très très chaud.
Non, mais alors pour le coup, c'est vrai que en tout cas, c'est ce qu'on attend de voir et ce qu'on a très rarement vu, quasiment pas en tout cas la saison dernière, malgré la victoire face à Indianapolis, pardon. C'était pas non plus un Trevor Lawrence des grands jours, hein. C'était pas forcément la force principale sur ce match-là. Là, en tout cas, à l'image de l'ensemble de l'équipe où tout a roulé globalement pour cette Jaguars, qui ont extrêmement bien exécuté, ça a été symbolisé par Lawrence. On pouvait craindre un petit peu le pire, on va dire, de nouveau en première mi-temps avec notamment des séquences offensives dans la zone rouge des Chargers qui n'étaient pas forcément concrétisées. Et Lawrence et les Jaguars en règle générale se sont bien rattrapés dans un match qui a globalement tourné à sens unique de manière assez étonnante pour le coup.
Raphaël, je parle de Trevor Lawrence, mais est-ce qu'en effet, l'important, c'est pas que tout est roulé autour et qu'il soit enfin mis dans des bonnes conditions? Parce qu'il y a un jeu au sol, il y a une défense, il y a des cibles, il y a tout aussi autour.
Il y a une ligne pour le protéger, si tu me permets, non?
C'est ça, il a pas eu à forcer.
Ouais, effectivement, je crois qu'il y a un peu de ça. Pour le moment, tous les choix d'intersaison, je trouve, de Jacksonville sont en train de payer, que ce soit du coaching avec un Doug Peterson qui a l'air d'avoir créé une identité, au choix même de joueurs, un Christian Kirk. On avait des doutes, son gros contrat qui s'affirme comme un receveur numéro 1. Zay Jones en cible numéro 2, 3, suivant les matchs, pareil, ça s'affirme. Les choix de draft ont l'air de payer. Enfin, Devin Lloyd fait un match énorme, clairement un match énorme, une grosse, grosse prestation. Et sur les trois premiers matchs, alors c'est que trois matchs, mais il est clairement parmi les rookies défensifs qui brillent le plus depuis le début de la saison. Je trouve que tous les choix faits par Jacksonville pour le moment sont en train de payer. Alors on n'en est qu'à trois matchs. Et bien sûr, ça demande de la confirmation, etc. Mais force est de constater que tout va dans le sens, dans le bon sens, et c'était rare à Jacksonville depuis ces derniers temps.
Aucun sac encaissé, tu as bien fait de parler de la ligne Grégory. 151 yards au sol pour aider Trevor Lawrence, avec James Robinson qui est à 100, Travis Etienne qui est à 45. L'affiche donc de Lawrence, c'est 28 sur 39, 262 yards, 3 touchdowns, aucune interception. Moi, c'est ça que j'aime bien, quoi. C'est qu'il n'y a pas eu à forcer, ils sont mis dans des bonnes conditions. Et la bonne nouvelle, c'est que ça fait aussi un jeune quarterback dans cette division. Un jeune quarterback de talent, parce que enfin et qui...
Ah, ça y est, non, mais... donc ça y est, la hype Davis Mills,
ah ouais,
s'est terminée.
Elle a duré longtemps, dis donc.
la quoi, pardon?
La hype Davis Mills s'est terminée, alors.
Ah bah, je pense que ça commence à approcher plus de la fin que du début.
Attends, mais... un peu.
Bah, en tout cas, il y a enfin, en tout cas, un mec qui pourrait être un franchise quarterback dans cette division, parce que avec tout le respect qu'on a pour Ryan Tannehill et Matt Ryan, ils sont plus près de la fin que du début. Et là, on le voit sur ce match, c'est indéniable, Trevor Lawrence est meilleur que Justin Herbert. Trois touchdowns et aucune interception, un touchdown, une interception en face. Je veux dire, les chiffres ne mentent pas. On peut dire maintenant que Trevor Lawrence est meilleur que Justin Herbert.
C'est ça. J'allais rebondir, j'ai senti le troll quand même un petit peu. Donc je veux
un petit peu. Bon, en tout cas...
Assumer.
En tout cas, moi, je trouve que Doug Peterson, c'est aussi ça la leçon. Il est là pour montrer vraiment que le titre des Eagles, c'est lui et pas Nick Foles ou Carson Wentz. C'est-à-dire que c'est lui. Il est le coach qu'il fallait à Lawrence. Il est le coach qu'il fallait à l'époque à Wentz et à Nick Foles. C'est une victoire aussi quand même pour Doug Peterson. Raphaël l'a dit. Greg, je pense que ça, c'est assez net quand même qu'il y a une vraie différence avec Urban Meyer l'an dernier.
Bah, déjà, il y a ça. Et encore une fois, ce qui est quand même impressionnant, c'est qu'on... Les Jaguars, ça fait partie de ces équipes qui ont un peu la réputation, notamment, moins que certaines équipes issues de Géorgie, mais de craquer dans certaines séquences, en tout cas d'avoir une certaine inconstance sur l'ensemble d'un match. Ça fait partie, en effet, surtout avec un groupe qui reste extrêmement jeune, qui peut être sujet à ce genre de problématiques. Et moi, ce qui me saute le plus aux yeux, au-delà du fait de présager de ce qui va se passer pour le reste de la saison, malgré une AFC Sud qui semble extrêmement prenable, comme ce qu'on pouvait prévoir en début de campagne, c'est que c'est un deuxième succès de suite pour Jacksonville et c'est un deuxième succès de suite sans sourciller. Ils ont gagné 24-0, je crois, de mémoire face à Indianapolis la semaine dernière. Et là, à aucun moment, ils ont rendu le momentum aux Chargers. Alors après, il y a le phénomène des blessures qui n'a pas non plus aidé en face. On en parlera sans doute rapidement. Mais voilà, c'est vraiment deux succès acquis vraiment avec force et talent. Encore une fois, dans un groupe qui est extrêmement jeune. Il y a une défaite à Washington où j'en avais parlé en première semaine. S'ils gagnent, il n'y a pas scandale non plus. Donc, en effet, Raph le disait, il y a une identité qui se crée. En défense, ils ont un run-stop extrêmement solide alors qu'ils ont pourtant croisé Indianapolis et Jonathan Taylor. Donc, voilà, il y a beaucoup de composantes qui commencent à se mettre en place et notamment à commencer par les tranchées où Jacksonville commence en tout cas à être un peu plus fringant qu'à l'accoutumée.
Raphaël, est-ce que tu commences à... Bon, je ne vais pas dire t'inquiéter, on est en troisième semaine. Est-ce que... T'es un peu gêné par ce qui se passe du côté des Chargers. C'était une des équipes les plus attendues de la saison. Et là, on a un Justin Herbert qui joue blessé, même jusqu'à la toute fin du match d'ailleurs, ce qui est un peu difficile à expliquer. Rashawn Slater est blessé et perdu pour la saison. Joey Bosa a eu sa blessure annuelle, ça y est, c'est arrivé en semaine 3 cette saison.
JC Jackson est blessé à la cheville. Enfin...
Est toujours pas là, voilà. Est-ce que ça commence à t'inquiéter?
Alors, ce qui m'inquiète un peu, c'est, on va dire, c'est la vibe, la dynamique négative, en fait, qui est autour de ça. C'est que tu peux perdre des matchs en début de saison, un peu, je dirais, si je devais comparer, un peu comme celui que les Chiefs ont perdu contre les Colts, tu vois. Bon, ils perdent, mais ils se tirent des balles dans le pied. La saison NFL, c'est 17 matchs. Tu fais pas de saison parfaite en dehors des Patriots. Donc, de toute manière, tu vas en perdre. Mais là, je trouve qu'entre le contenu un peu décevant, les blessures qui s'accumulent, les choix, pour le coup, un peu douteux, comme tu dis. Est-ce que Herbert doit vraiment jouer autant? On a quand même senti dès le deuxième, j'ai envie de dire, dès le deuxième, troisième drive offensif qu'il n'y était pas. Enfin, il n'y avait pas le Herbert habituel. Je me suis parfait de toute sa jeune carrière, mais je pense que c'est son moins bon match. Je pense que depuis qu'il a pris les rênes de l'attaque de Los Angeles, c'est probablement le scoring le plus faible des Chargers. Enfin, j'ai peu de souvenirs de matchs des Chargers à 10 points ou moins. Enfin, comme ça, tu vois, je. Donc, bref, il y avait aucune. Rien n'allait dans le match. Austin Eckler, depuis 2 semaines, disparaît, alors que ces dernières saisons, il arrivait, même quand le jeu au sol ne s'établissait pas, il arrivait à sortir du backfield à la réception. Bref, il y a une dynamique un peu. Pas terrible, une ambiance un peu bizarre. Alors, l'avantage pour eux, c'est que la conférence est tellement homogène que ça pourrait ne se jouer à la fin qu'à une victoire d'écart. Et donc. À 1-2, t'es pas largué tout de suite, mais je suis pas très rassuré.
On va enchaîner avec toujours dans l'AFC et toujours une équipe de l'AFC Sud, les Titans qui recevaient les Raiders. C'est victoire des Titans 24 à 22. C'était déjà un match coup près et ce sont donc les Titans qui s'en sortent. Touchdown sur leurs 3 premières possessions. Ensuite, ils ont beaucoup peiné en seconde période. Ils n'ont pas marqué de points après la mi-temps et ils ont eu besoin que la défense sauve une tentative à 2 points pour ne pas se retrouver embarqué plus loin. Est-ce que c'est rassurant pour ces... Parce qu'on a vraiment deux équipes là qui ont de la peine. Greg, est-ce que tu as été rassuré parce que les Titans se arrachent dans cette première victoire?
Je pourrais difficilement te dire oui. Après, encore une fois, des fois en NFL, et on en parlait il y a quelques secondes, le plus important, c'est de faire le dos rond et d'aller chercher des victoires. C'était un scénario qui pouvait rappeler curieusement ce qui s'était passé en première semaine face aux Giants. Tennessee, un peu justement, pour faire écho à ce qu'on disait sur les Chargers, ils ne sont pas vraiment dans une bonne dynamique. Alors, Harold Landry, sa blessure, ça commence à remonter, mais on rappelle qu'ils ont perdu Taylor Lewan la semaine dernière, donc c'est pas voilà, tout est pas non plus au beau fixe. Il y a beaucoup de joueurs qui sont signés un petit peu en urgence ces derniers temps du côté de Tennessee pour dépanner. Il y a eu en effet ce très bon début de match qu'on a réussi malgré tout à assurer jusqu'au bout. Derrick Henry a performé, Tannehill et Woods ont bien combiné ensemble. Il y a eu des jeux décisifs, tu disais en fin de rencontre, des pertes de balles provoquées. Donc voilà, c'est le plus important. Il va falloir gagner en constance et surtout rassurer dans un contenu global. Mais c'est sûr que là, du côté de Tennessee, surtout si on fait le comparatif encore une fois avec ce qu'on fait par exemple les Jaguars ces 2 dernières semaines, on n'est pas complètement rassuré actuellement par les prestations de la franchise de Nashville.
Raphaël, qu'est-ce que tu retiens de ce match?
C'est peut-être plus côté Raiders, parce que comme dit Greg, Tennessee, je fais une bonne mi-temps en attaque, une bonne mi-temps en défense, et ils n'ont pas trouvé la constance globale sur l'ensemble du match, mais on va dire que les points forts de Tennessee sont les mêmes, les points faibles de Tennessee sont à peu près les mêmes, et je trouve qu'on n'apprend pas tellement in fine sur Tennessee, alors que sur les Raiders, on voit que ça continue de galérer offensivement, on ne sait pas très bien par quel bout menait cette attaque. Davante Adams fait quelques réceptions, mais pas tant que ça. Darren Waller est complètement à côté de la plaque. Enfin, il n'y est pas dans ce début de saison. Et puis, je crois que surtout, mais ça, on l'avait pointé en intersaison, cette défense manque tellement de playmakers pour faire la différence, en dehors d'un Max Crosby qui essaye de surnager dans un océan de médiocrité, désolé, mais... ça manque. Enfin, le pass rush des Raiders est inexistant, alors que la ligne offensive de Tennessee, bon, c'est pas le mur. Donc je suis très inquiet par cette équipe des Raiders qui trouve pas d'identité offensive, qui a cassé ce qui marchait l'an dernier et qui défensivement a zéro progrès, et le problème c'est que je vois pas en interne les solutions défensives pour que les Raiders change le cours de l'histoire, j'ai envie de dire ça comme ça, le cours de leur saison. Enfin, je vois pas qui là va émerger chez les Raiders comme un playmaker.
Perdu en attaque, démuni en défense, Greg.
Ah bah, le trou noir n'a jamais aussi bien porté son nom. Hein. Là, pour le coup, c'est depuis le début de la saison, ça fait un petit peu peur. Alors en effet, en plus, il n'y a pas de jeu au sol. Je crois que c'est des rares équipes, les Raiders, qui n'ont toujours pas marqué de touchdown au sol. Bon, après, encore une fois, il n'y a que 3 matchs, mais on voit que c'est quand même assez inoffensif dans ce domaine-là, malgré tout.
Là, ils ont quand même quasiment 100 yards à 5 yards par course.
Ouais, enfin, je sais pas. J'ai du mal à voir une dynamique. Moi, honnêtement, alors, Je rejoins globalement ce qu'a dit Raph. Défensivement, en effet, à part Crosby, il y a quasiment rien dans cette défense. Mais bon, ça, malheureusement, on ne le découvre pas. Il y a eu énormément de mauvais choix ces dernières années dans le secteur défensif qui ne cesse de se payer malgré les changements de coaching staff. Mais ouais, en attaque, encore une fois, enfin, quand je pense à tout ce qu'on disait sur John Gruden, le côté ouais, vachement old school, etc., il ne sait pas utiliser Derek Carr, il va les changer à chaque intersaison. Enfin, ce que propose Doug McDaniel depuis qu'il est arrivé, c'est assez problématique, en ayant récupéré Davante Adams quand même. Donc, c'est quand même extrêmement curieux. Moi, je trouve encore une fois que le jeu au sol, il y a un certain manque de rythme malgré tout. Et alors, ça va être une opinion impopulaire sans doute. J'aime pas vraiment ce Derek Carr là. Je trouve que c'est le Derek Carr qui a tendance à beaucoup forcer. Alors après, encore une fois, il y a des scénarios qui font que. Mais on a un Derek Carr qui se retrouve à beaucoup forcer et je trouve que c'est plus intéressant quand il joue plus simplement. En tout cas, ça me semble plus efficace. Là, on a l'impression que c'est vraiment désespéré. C'est des passes qui sont très tendues, très très dangereuses et d'ailleurs qui sont payées cash sur pas mal de séquences dans la zone rouge. Et ouais, on a l'impression qu'en attaque, et ça aussi on en parlait, les receveurs sont pas performants, le quarterback surjoue, la ligne est pas parfaite. Donc, enfin, vraiment, c'est très très inquiétant pour un head coach qui est un spécialiste offensif, le fameux spécialiste offensif qu'on nous vend, mais qui performe jamais en dehors de Foxborough. Bah là, concrètement, faut qu'il arrête d'aller en AFC West, Josh McDaniels, parce que manifestement, ça se passe pas bien à chaque fois. Sans présager du reste de la saison, mais en tout cas, les trois premiers matchs, c'est très, très inquiétant d'un point de vue contenu.
Après, est-ce qu'il n'a pas appris de ses erreurs? C'est-à-dire qu'à Denver, il commence par 6 victoires et 0 défaites, et derrière, il s'écroule.
Ah oui, là, la dynamique inverse.
Là, le mec dit, tu vois, je vais commencer par 6 défaites.
Ah oui.
Ouais, enfin, je sais pas s'il a beaucoup de temps. Hein. Visiblement, il a quand même eu le droit à un petit entretien privé dans le bureau du proprio juste après le match. Je sais pas si Las Vegas, est-ce que tu as le temps de perdre pendant 2 années, tu vois, c'est Las Vegas quoi.
Ah, mais s'il a dit à Mark Davis qu'il était dans le turfu, ça peut passer. Attends, je suis d'accord avec Alain, moi, c'est une théorie qui m'intéresse. Je demande à ce que ce soit creusé.
C'est gênant en tout cas, c'est que c'est vrai que l'effectif en théorie est meilleur que l'an dernier. Vous parliez des absences défensives, il y a Chandler Jones.
On attaque.
Chandler Jones était quand même censé aider, mais on le voit dans vos propos, il n'existe même plus en fait. Là, il a un quarterback hit, mais ça prouve qu'il n'a pas une grosse influence sur le jeu. Donc en effet, c'est très inquiétant du côté de Las Vegas. Une équipe qui a relevé la tête, ce sont les Bengals qui se déplaçaient chez les Jets. 27 à 12 pour Cincinnati, seulement 2 sacks pour Joe Burrow, 163 yards pour lui dans le premier quart, record en carrière. L'attaque des Bengals est repartie au moins pendant une semaine. Et je suis sûr que Greg là est content parce qu'il se dit quelle leçon Zach Taylor m'a donné.
Tout à fait. Mais ça change la vie hein, quand Joe Burrow il a un minimum de temps pour lancer aussi, ça peut.
Alors, en vrai, c'est pas une défense totalement cadeau. Hein,
non, il y a eu un peu de pression.
Il y a eu des choses quand même.
Il y a eu un peu de pression, notamment je crois de Quinnen Williams qui ne s'est pas seulement distingué sur le bord de touche en s'en prenant à un assistant coach, mais qui mine de rien s'est un peu invité dans la poche des Bengals. Mais en tout cas, il y a eu du temps suffisant, on dira, pour Joe Burrow pour quand même réussir à trouver ses cibles. C'était un match qui pouvait paraître un petit peu piège, hein, surtout avec les problèmes physiques de Joe Mixon. Et là, en l'occurrence, les Bengals ont bien répondu. Ils se sont quand même globalement très, très peu fait peur. Faut dire que ça aussi, on pourra peut-être en parler rapidement sur les Jets, mais en face, il n'y avait pas non plus un foudre de guerre, selon moi. Mais voilà, ça fait du bien pour la confiance. La défense reprend également du poil de la bête d'un point de vue pression. Donc tant mieux pour Cincinnati. C'est le visage d'une équipe qu'on attendait de voir en début de saison et qu'on a très peu, voire quasiment pas vu sur les 2 premières semaines.
4 sacks pour Cincinnati, deux interceptions pour Joe Flacco. Raphaël, Greg évoquait les leçons pour les Jets. Je pense que la leçon, c'est youpi, Zach Wilson revient.
Ouais. Oui. non, mais quand je fais un peu la fine bouche, mais parce qu'en vrai, je sais pas si Zach Wilson est la solution rêvée idéale pour New York. Donc, oui, tant mieux par rapport à Joe Flacco parce que t'as besoin de tester ton deuxième année et t'as besoin de le voir sur le terrain. Maintenant, youpi, franchise quarterback pour 10 ans, je sais pas.
Oui, on va attendre un petit peu. On a enfin retrouvé Trevor Lawrence. On va peut-être attendre un petit peu pour Zach Wilson. Non, juste très rapidement, une petite parenthèse, Alain, sur les Jets. Je vais pas faire trop long. Je continue quand même d'être un petit peu inquiet alors que j'étais assez optimiste en début d'année par Mike LaFleur. Je ne comprends toujours pas les appels de jeu. Clairement, Joe Flacco n'est pas l'avenir de cette franchise. Donc pourquoi s'obstiner même avec un score qui n'est pas favorable? Joue sur ton jeu au sol, sur tes jeunes running backs, sur les autres qualités de ta ligne qui de toute façon est débordée de toutes parts sur le pass pro. Donc, utilise-la dans un autre registre. Et là, très concrètement, il y a des ajustements qui ne sont pas faits. Et c'est extrêmement problématique, extrêmement inquiétant pour la suite de la saison du côté de New York.
Tu insinues que faire lancer 52 ballons à un Joe Flacco de 37 ans est une mauvaise tactique.
Non, mais ça avait déjà pas marché contre Baltimore. Il s'est dit, eh, franchement, contre les équipes de l'FC Nord, allez, YOLO, on s'en fout. On y va.
Non, mais c'est une analyse qui t'appartient. Écoute, c'est vrai que Joe Flacco, c'est quand même assez prodigieux. Il a lancé 52 fois contre les Bengals, 44 fois contre Cleveland et 59 fois contre Baltimore.
Je fais un petit retour en arrière, mais parce que je n'ai pas beaucoup réagi sur la ligne offensive de Cincinnati. Attention, il y a que 2 sacks, mais il y a aussi 7 plaquages pour perte, 9 quarterback hits.
Oui, il y a de la pression, oui, bien sûr.
Il y a quand même, enfin, les gens sont passés. Que ça ne soit pas toujours transformé en sack, j'entends. Neuf quarterback hit, à peu de choses près, ça peut vite devenir 4-5 sacs, tu vois. Enfin,
j'aime cette phrase. Les gens sont passés.
On voit le verre à moitié plein. On se dit que Joe Burrow s'est débarrassé plus vite du ballon cette semaine.
Oui. Tant mieux.
On lui a marché sur la cheville, je crois quand même. Attention, faut faire attention.
Raphaël va être plus motivé par ce match, je crois. C'est le Patriots Ravens 37-26 pour les Ravens. Lamar Jackson est-il le MVP des 3 premiers matchs de la saison, Raphaël?
Oui. Pour moi, oui. Je sincèrement, il est toujours efficace au sol. Il est efficace comme jamais il ne l'a été à la passe. Enfin, il n'y a quasiment pas de déchets dans son jeu aérien, avec pourtant un casting de cibles. Bon, je ne suis pas sûr que beaucoup de quarterbacks dans la ligue veulent Duvernay et Bateman en cible numéro 1 et 2.
Bon, il a quand même Marc Andrews. Hein. Je veux bien qu'on parle que des receveurs écartés. Okay, oui, okay. Je suis d'accord.
Il a Marc Andrews, mais tu vois ce que je veux dire. Ce n'est pas non plus…
Michael Pittman, je suis d'accord avec toi.
Voilà, et je pense qu'il aurait bien pris le casting de… il aurait bien échangé contre Jamar Chase et Higgins et Boyd, tu vois. Bon, bref, de toute façon…
Surtout que Bateman et Duvernay, de loin, ça fait un peu super-héros et cépage de vin blanc, donc…
Voilà, effectivement, ça fait ça. Non, mais oui, tout simplement, enfin, je trouve qu'actuellement, il porte les Ravens parce que c'est une défense qui a un peu de mal, on l'a vu sur certains matchs. Et il gagne clairement offensivement sur les premiers matchs de la saison. C'est l'attaque qui les porte. Et quand on dit l'attaque, c'est principalement Lamar Jackson qui porte cette équipe. Donc, à l'heure actuelle, ouais, moi, j'ai aucun problème à lui donner le MVP. Hein.
Je posais la question parce que je le pense. Il n'a jamais été aussi fort, il n'a jamais été aussi fun. Il masque une partie des lacunes de son équipe, mais c'est ce que font les grands joueurs. Et il est dingue, quoi. Il est en sur-régime, mais il n'est pas en sur-régime. Je pense qu'il est juste incroyable en ce moment. Donc, aucun problème avec le titre de MVP. Greg, malgré les receveurs et Marc Andrews, c'est MVP des 3 premières semaines, ce qui est un titre qui ne veut rien dire, mais c'est quand même son titre.
oui, je lui remets officiellement le titre de MVP des 3 premières semaines. C'est ça, beau mois de septembre. Non, mais oui, c'est sûr, surtout qu'encore une fois, au niveau du jeu au sol, clairement, ces dernières années, on pouvait dire oui, il y a un système offensif qui est fait pour faire briller donc les running backs avec beaucoup d'alternance, etc. Concrètement, c'est pas le cas, hein, avec notamment la blessure de J.K. Dobbins. C'est principalement lui qui doit se dépatouiller sur le jeu au sol et qui doit trouver notamment les solutions à la passe. Et à l'heure actuelle, il le fait. Donc voilà, ce qui est pas simple en plus, parce qu'on rappelle qu'il a quand même perdu Ronnie Stanley. Voilà, faut aussi se débrouiller avec ce paramètre-là. Et en effet, du côté des Ravens, ce qui est aussi inquiétant, c'est qu'on attendait le retour notamment de certains défenseurs cadres. Alors, il y a des pertes de balles, mais ça continue aussi de concéder beaucoup, beaucoup de terrain au sol et contre la passe. Et ça va être quelque chose à surveiller pour la suite de la saison. Ça continue de donner des matchs hyper spectaculaires avec les Ravens, pas qu'avec Lamar Jackson, mais ça peut être inquiétant pour le reste de la saison malgré tout.
Ils ont fait la différence en défense, tu l'as dit, surtout en récupérant des ballons. Il y a 4 ballons perdus pour les Patriots, dont 3 interceptions pour Mac Jones. Est-ce qu'il y a du mieux pour les Patriots? Ils ont failli un peu revenir, ou alors est-ce qu'il y a quand même de l'inquiétude? C'est pas dans les habitudes de la maison d'être à 1-2 après 3 matchs, et encore moins avec un quarterback qui n'a pas l'air de progresser plus que ça, et qui en plus vient de se blesser, une entorse ligamentaire au niveau de la cheville. A priori, c'est plusieurs semaines d'absence, et donc le retour de Brian Hoyer, qui est toujours là. Est-ce qu'on est inquiet pour les Patriots? Est-ce que Mac Jones progresse?
Ah, c'est compliqué.
Raphaël, il a fait un truc avec les sourcils qui veut dire non.
Ah, il m'a volé mon expression sourcil. Mais forcément, quand on se rappelle du contenu qu'il y avait la saison dernière, on pouvait qu'être optimiste. Après, c'est sûr que les ingrédients en attaque, ils vont pas spécialement changer, que ce soit avec Jones ou avec Hoyer, parce qu'on a vu malgré tout que le jeu au sol était capable de poser des problèmes à cette défense des Ravens, que ce soit avec Stevenson ou dans une moindre mesure avec Harris. Même Jones, d'ailleurs, a quelques stats au sol. Hein. Il y a même un TD, il me semble, dans ce registre-là. Il y aura moins de mobilité avec le quarterback remplaçant en l'occurrence, mais bon, je pense que le système offensif ne va pas forcément évoluer énormément. Après, pour répondre à ta question, voilà, c'est sûr qu'on reste un petit peu, on a l'impression qu'on reste un petit peu en dedans par rapport à ça. On n'a pas forcément un Mac Jones qui progresse sensiblement comme d'autres ont progressé avant lui. Il y a beaucoup d'erreurs, je pense, évitables sur certains turnovers concédés dimanche. Bon, il faudra voir ce que ça donne. Après, on rappelle qu'il travaille un peu avec un coordinateur offensif un peu obscur pour démarrer la saison. C'est peut-être pas les meilleures conditions aussi pour espérer continuer de progresser.
Raphaël, est-ce que ces Patriots, est-ce que c'est une équipe de bas de tableau maintenant ?
Non, de milieu de tableau, moi je dirais. De milieu de tableau, ça va aller arracher quelques matchs à gauche, à droite contre les équipes a priori à leur portée. Et ça va un peu plus galérer face aux équipes un peu meilleures. Voilà, c'est une équipe.
Ça aurait dû progresser, ils étaient aux portes des playoffs l'an dernier.
Ouais, ça aurait dû progresser à condition que Mac Jones progresse. Enfin, c'est aussi un peu c'était la condition pour passer un palier à mon sens. Et là, bon, bah voilà, Grégory l'a dit, il y a un coaching un peu étonnant autour. On ne sait pas vraiment.
Il n'y a toujours pas de receveur. On parle du casting de Lamar Jackson. Alors, il y a eu une bonne connexion ce week-end avec Devante Parker, mais c'est pas pour ça que du jour au lendemain, il a un cast de receveur numéro 1 à gogo.
Parker, c'est vraiment l'irrégularité caractérisée. C'est les matchs, c'est 0 ou 150 yards.
Et ils ont misé beaucoup les Pats à l'époque sur les tight ends.
Oui.
Je suis bien placé pour le savoir. Hein. J'ai Hunter Henry en fantasy. Où est-il passé?
Mais même Jonnu Smith avait reçu un gros contrat, enfin les deux.
Ouais,
hein,
bien sûr. Donc oui, c'est là aussi, malheureusement, le problème me semble plus vaste que Mac Jones. Et encore une fois, même si on a beau dire, vous inquiétez pas, Mac Daniels est parti, mais on tient la clé en attaque. Je pense que malheureusement, les mots sont plus profonds que ça.
En parlant de contrat, j'ai regardé par pure jalousie, Brian Hoyer, c'est 32 millions de dollars gagnés en carrière. Il est de retour.
Bon, il est un dixième de Sam Bradford dans sa carrière.
C'est vrai, il y a ça aussi. Mais lui, en jouant moins, il a moins risqué de blessure. Oui, je pense qu'il va très bien, Brian Hoyer, par rapport à Sam Bradford. Il peut peut-être plus marcher, tu vois. Alors Hoyer, il a voyagé hein, aussi. Il a fait des miles. Il a fait Patriots. Après, il a fait Cardinals, Browns, Texans, Bears, 49ers, Patriots, Colts, Patriots. Bon, après, il est toujours lié aux Patriots. Broncos 11, 49ers 10. Superbe match, hein, 11-10. Les Broncos passent en positif, mais franchement, on dirait pas en regardant le match. Touchdown à 4 minutes de la fin de Melvin Gordon. Les Niners interceptés derrière. Positif, vraiment, c'est mot pour le bilan, mais pas pour le match. Ils ont eu 9 three and out. Donc, 9 fois, ils ont fait 3 actions et un punt. Il y a eu un drive construit. Une seule passe de plus de 20 yards dans les airs. Je suis vraiment inquiété par cette attaque. Ils n'ont toujours pas dépassé les 16 points, les Broncos. Ça fait 3 matchs de suite qui ne dépassent pas les 16 points. Il y a 4 sacs. Je commence à me poser des questions sur Russell Wilson un petit peu.
Ah. Parce que, il sera pas MVP de la saison, du coup, cette année.
Non, il a jamais modifié une ligne. Ça n'a jamais été son truc. Ça n'a jamais été un Peyton Manning. Je me débarrasse du ballon en un quart de seconde et mes linemen ont l'air géniaux. Mais là, c'est parce que c'est pas faute d'avoir des armes. On peut pas dire qu'il a pas des armes et il aura jamais une ligne parfaite.
Ouais, enfin, oui. Bah... Non, mais après, de toute façon, Russell Wilson,
donc c'est que le coach.
Tu vois, non, c'est pas que le coach. Même si je suis rassuré parce qu'à un mois d'Halloween, c'est très bien que Nathaniel Hackett fasse son plus beau cosplay de Vic Fangio. Parce que très concrètement, en termes de mauvaises décisions et de je mise tout sur la défense pour gagner des matchs. Et avoir une attaque pourrie, ça valait le coup d'engager un coach à mentalité offensive.
Oui.
Après, Russell Wilson, voilà, il y a une carrière qui parle pour lui malgré tout. On peut lui dire, parce qu'en ce moment, c'est le grand jeu, notamment de la Legion of Boom, de dire, ah ouais, à Seattle, alors c'est vrai qu'on était permissifs avec Wilson, etc., etc., qu'il n'était pas si... Enfin, ils disent pas qu'il n'était pas si bon que ça, mais voilà, qu'en gros, on surévalue un petit peu le bonhomme. On va peut-être pas exagérer non plus. Il y a une carrière qui parle malgré tout pour lui. Après, il arrive dans sa deuxième partie de carrière, justement. Et bon, je suis pas non plus enthousiasmé parce que elle a jamais vraiment explosé, cette attaque de Denver. Alors, c'est sûr qu'elle était peut-être un quarterback, mais il y a un jeu au sol qui me semble quand même encore un petit peu inconstant depuis le début de la saison. Enfin, en tout cas, on voit pas un Diamante Williams aussi cinglant, on dira, que la saison dernière. Voilà, après, moi, je veux bien laisser un petit peu le bénéfice du doute à Russell Wilson, mais encore une fois, quand tu as un nouveau coach qui arrive avec une mentalité offensive, tu attends quand même qu'il propose un petit peu autre chose, et pour l'instant, ça, on ne le voit pas.
Je ne l'enterre pas, mais tu vois, je me dis qu'avec Sutton, avec Jody, avec, enfin, tu vois, il y a un peu de matos, ce n'est pas, c'est pas horrible. Je ne sais pas, lui, Raphaël, toi, qui c'est ton gars, tu vois. est-ce que tu crois encore en ton gars, ou est-ce que tu dis que c'est la faute de Nathaniel Hackett?
Non, mais j'y crois, je laisse un peu de temps. C'est après quasiment 10 ans à Seattle. Bon, il arrive dans une nouvelle équipe, des nouveaux joueurs, un nouveau cadre. Je vais lui laisser le bénéfice du doute sur 3 matchs. Surtout que je reste un peu. Voilà, je m'interroge sur le coaching dans le sens où, après leur touchdown, après leur meilleur drive, on va dire, offensif de la saison où Denver met un touchdown, ils forcent un punt, ils récupèrent la balle pour tuer le match et ils appellent 3 courses plein centre pour descendre le chrono en donnant l'opportunité finalement de se faire à Kyle Shanahan et aux 49ers de les taper juste derrière, donc de se faire punir. Je sais pas, je suis un peu perplexe par tout ça. Je pense que malgré tout, on a aussi peut-être un poil quand même surévalué Jerry Jeudy et Cortland Sutton, hein, qui n'ont pas non plus 5 ans de grosse carrière. Enfin, je veux dire, c'est pas Taylor Lockett. Ils ont moins prouvé que Lockett à ce niveau-là. Bon, je sais pas, j'attends de voir. Après, ce qui est sûr, c'est qu'il n'est pas au niveau attendu. Ça, c'est une évidence.
Vous savez, c'était pour troller, mais alors je ne pensais pas que la stat serait si folle. Tu disais premier match à Denver après une longue carrière ailleurs, etc. Le premier match de Peyton Manning à Denver, il est délirant. Non, mais alors, franchement, je voulais juste regarder pour faire une vanne et tout. Son premier match à Denver, 27 sur 42, 462 yards, 7 touchdowns, 0 interception. Le mec est arrivé quand même. Petite arrivée, quoi. Le
oui, délire. Surtout qu'il sortait d'une blessure au coude, hein, parce qu'il fait une saison 2012 blanche.
C'est ça. Et sur ses 3 premiers matchs à Denver.
De 2011, pardon.
Du coup, ses 3 premiers matchs à Denver, c'est 12 touchdowns, 0 interception.
Ouais, mais bon,
c'est là, une machine pas, cette année-là.
Oui, enfin, on se rappelle, oui, jusqu'au 2013, Super Bowl. 2014, oui.
Jusqu'au Super Bowl contre Russell Wilson, où ils se font éclater d'ailleurs. Mais c'est l'année à 55 touchdowns et 10 interceptions hein, de Manning. Donc, en effet, lui s'était adapté très très vite à l'ère de Denver, visiblement. Mais je suis comme vous. Voilà. Pour Hackett, en tout cas, clairement, on parlait de début. En termes de réputation de génie offensif, on aura fait début plus percutant que 3 fois moins de 16 points, quoi. Parce que c'est quand même assez flippant. Les Niners, c'est pas beaucoup mieux. 2 ballons perdus, un safety pour Jimmy Garoppolo. Il a montré précisément, le mec s'est dit, je reviens une semaine pour montrer pourquoi il voulait changer de quarterback. Parce qu'on a vu le Jimmy Garoppolo limité, quoi.
Alors, je suis désolé, je vais faire un ignoble raccourci, mais genre, je mets à la place des fans des Niners. Tu perds un match d'un point sur un match où ton quarterback fait une erreur à la con en mettant le pied en fond de end zone et pour concéder un safety. Alors, j'entends, tout n'est pas du fait de Garoppolo, mais en attendant, maintenant, la cible facile, forcément, c'est Shanahan de dire ah ouais, les attaques fonctionnent pas. Mais je te rejoins totalement. Moi, en l'occurrence, Garoppolo, il a démontré par le passé que ça pouvait être un bon game manager, mais que quand il n'était pas dedans, il n'était pas dedans. Et là, sur ce match-là, je suis désolé, mais il concède 2 points bêtes. Même si en effet, il y a une pression des Broncos, qu'il n'est pas forcément en posture favorable.
Il a dit qu'il avait perdu la notion de là où il était.
Ah ouais, mais bon, un quarterback de ce niveau-là, normalement, ça ne doit pas mettre le pied en touche. Le dernier souvenir que j'ai, et d'ailleurs, il en a plaisanté sur ESPN, je crois que c'est Dan Orlovsky avec Détroit. A priori, ce n'est pas la même réputation sur le papier qu'on aime ou qu'on n'aime pas Garoppolo. Après, il y a ce 1 sur 10 sur 3e tentative où globalement, ça fait là aussi un petit peu tâche. San Francisco, que je change pas de sport, peut quand même avoir d'énormes regrets parce que c'était une équipe qui était largement prenable et il y a eu énormément d'erreurs, ce fumble également en fin de match. Enfin bon, voilà, tout, rien n'a tourné dans le bon sens et ils ont pas été aidés en l'occurrence par Garoppolo à mon sens.
On va reparler largement de San Francisco dans l'émission de jeudi matin, donc on va avancer, messieurs. En bref, pour ce match, on peut quand même résumer en disant 2 bonnes défenses, quand même mine de rien, mais un niveau d'attaque indigne, Raphaël.
Oui, c'est ça, avec à surveiller, mais je trouve une bonne surprise côté backfield défensif des 49ers, leur jeune safety sont bien plus intéressants que ce qui était prévu jusque-là, donc à surveiller.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times.
Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Hey, Kurt Warner here. Hi to everybody at the Touchdown Podcast.
On a parlé hier de Miami, la seule équipe invaincue de l'AFC, et désormais il y a les Eagles, la seule équipe invaincue de la NFC. Commanders, Eagles, ça a donné 24-8 pour Philadelphie, et c'est mérité, 24 points dans le dernier quart, et c'était plié, dans le premier, pardon, je sais plus, dans le deuxième, je vais y arriver, ils ont tout marqué dans un carton. Raphaël, t'étais plus impressionné par leur défense ou par leur duo de receveurs ?
Bonne question. Les deux, mon capitaine.
Devonta Smith, il régale. 8 réceptions, 169 ouais. yards, un touchdown. Et puis, il a un style qui est atypique, mais qui est génial. Je trouve Smith et Jaybrand, là, on est.
Ouais, c'est un bon duo complémentaire parce que Jaybrand apporte une sorte de physicalité. Je ne suis même pas sûr que ce soit un vrai terme, d'ailleurs, pardon. Mais excusez mon français si ce n'est pas un bon terme. Mais voilà, il a vraiment une capacité à gagner les réceptions contestées par son physique, alors que Devonta Smith joue sur beaucoup de vitesse, sur des routes aussi assez impeccables. Enfin, non, ouais, ce duo porte cette équipe, mais parce que faut le dire aussi, hein, Jalen Hurts, c'est quand même pas mal dans ce qu'il fait pour le moment depuis le début de la saison. C'est pas le quarterback le plus brillant, mais en tout cas en termes d'efficacité actuellement, c'est très bon niveau.
Un peu, ouais, 340 yards, 3 touchdowns, aucune interception.
Moi, si on dit que Lamar, c'est le MVP des 3 premières semaines, je mets Jalen Hurts pas très très loin, hein, parce qu'en l'occurrence, il est quand même. Alors, c'est sûr que ça se ressent moins dans le côté clutch, parce que les Eagles, on va dire, à part peut-être en première semaine, ils arrivent quand même à être assez, assez solides des deux côtés du ballon malgré tout. Mais oui, globalement, tous les voyants sont au vert. Au sol, ils avancent assez bien. Ils progressent en plus à la passe, donc du coup, c'est pas déconnant. Enfin, voilà, ça fait écho à ce que vous disiez, notamment sur les deux receveurs. Et oui, pour rebondir aussi sur ce que tu disais, Alain, en plus, ils mettent de la pression. Ce qui était un gros problème la saison dernière. Alors, ils étaient à 4 sacs, je crois, avant cette rencontre. Là, ils en font 9. Donc, certes, on peut se dire qu'en face, peut-être, il y avait un gros, gros coup de mou du côté de Washington. Mais en tout cas, voilà, ça met tout le groupe, ça met tout le front seven un peu en confiance, surtout que ça a un petit peu distribué au niveau des sackers. Donc c'est pas forcément une mauvaise chose, et si ça continue d'avoir autant de voyants ouverts du côté de Philadelphie, avec un calendrier qui reste extrêmement abordable en début de saison et une division qui l'est tout autant, attention, ça peut être une équipe, pour moi il y a largement la place pour qu'il soit par exemple premier de conférence nationale à l'issue de la saison régulière, hein.
Oui, complètement, c'est pas inimaginable. Les stats sur les sacs sont délirantes. Tu disais, il y en a 9 qui ont fait perdre 58 yards à Washington. Il y a aussi 17 quarterback hits. Donc les gens sont passés, hein, beaucoup dans ce match, clairement.
Journée porte ouverte.
Vance a avoué que certains sacs sont pour lui, ce qui est plutôt sympa. Mais non, mais voilà, après, encore une fois, c'est un match impeccable de Philadelphie. Alors, on a Victor qui il faut qu'on le dise. Victor a râlé dans la rédaction en disant, ils ont rien fait en deuxième mi-temps, c'est n'importe quoi, etc. Est-ce que vraiment tu as besoin de surachever ton adversaire quand tu mènes 24-0 et que tu as déjà mis 9 sacs avec Carson Wentz?
Non, mais t'imagines que moi, ça m'éclate quand même, parce que moi, qui ai quand même avalé quelques couleurs avec Atlanta, avec mon équipe qui se fait remonter à chaque fois. Avoir Victor qui fait la fine bouche, genre, et si on n'avait pas été, attention quand même, on avait 24 points d'avance, on n'a pas pris un point, mais vous imaginez, on pourrait éventuellement à l'avenir. Ouais, d'accord, ok. Bon, bah, écoute, ça arrivera peut-être encore une fois. Moi, je veux bien qu'on présage éventuellement du pire à l'avenir et de ce qui peut se passer potentiellement d'ici la fin de la saison, voire en playoff. Et bon, en attendant, prends ce qu'il y a à prendre, laisse ton équipe progresser. Et là, en l'occurrence, à Washington, encore une fois, face à un adversaire de division, potentiellement, alors ça maintenant, c'est à relativiser, mais potentiellement l'équipe qui aurait pu poser le plus de problèmes avec la blessure de Dak Prescott, c'est peut-être pas tout à fait sûr à l'heure actuelle à l'issue de ce week-end. Mais en tout cas, voilà, profite et pars du principe que, en effet, ton équipe est invaincue et qu'elle peut continuer comme ça, vu que c'est intéressant des deux côtés du ballon.
On est passé dans un podcast où Greg parle directement à Victor. Donc on
parle oui,
un seul auditeur.
Ressaisis-toi, Victor.
Il a raison. On lui a dit à Victor. Enfin, c'est pas parce que là, il se relâche en deuxième mi-temps du troisième match de saison face à Washington à 24-0 que ça présage du fait que les mecs vont pas jouer sérieux la deuxième mi-temps en play-off. Enfin, je pense qu'il faut se détendre et qu'une saison, c'est long, qu'il y a de la gestion et que. Puis attends, la deuxième mi-temps, offensivement, ils font rien, mais en défense, ils continuent à mettre la misère défensivement. Donc, bon.
Les Commanders, il y a quelque chose à tirer de ce match pour eux, ou c'est encore. La défense entame pas trop mal, puisqu'ils n'ont pas pris de points à la sortie du premier quart, mais l'attaque n'a jamais pu se lancer. Donc, il n'y a pas. On a vu de la frustration un peu chez les receveurs. Et...
En face, ils avaient quand même deux gros morceaux, mais j'attends quand même qu'un jour, ils aient vraiment un corner numéro un d'envergure, parce que très clairement, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Vraiment un corner extérieur, hein, parce qu'on voit par exemple que Benjamin Saint-Just sur le poste de nickel montre quelques signes de progression, mais vraiment en corner numéro un sur l'extérieur, c'est un peu plus compliqué. Moi, je suis surtout curieux de savoir ce qu'ils vont faire avec Brian Robinson une fois qu'il sera revenu. Parce que très clairement, même avec les investissements qui ont été faits pendant l'intersaison, je ne sais pas si le poste de... enfin, je sais pas si l'identité offensive à l'avenir, ça doit être un jeu excessivement axé sur de la passe. Là, le scénario faisait que, mais je pense que Washington aura tout intérêt peut-être à changer son fusil d'épaule et à partir sur un jeu au sol peut-être à outrance avec le retour du rookie d'Alabama.
Giants 16, Cowboys 23, touchdown capté à une main par CeeDee Lamb pour aller chercher la victoire dans le dernier quart. Daniel Jones intercepté en fin de match pour boucler l'affaire. Les Cowboys qui sont pas si morts et qui survivent grâce à leur, notamment à leur grosse défense, à un Cooper Rush qui fait les minima et le jeu au sol. Et tout ça, ça passe. Raphaël, la leçon, c'est quoi? C'est cette défense qui tient ou c'est Cooper Rush qui tient?
Un peu les deux, j'ai envie de dire. Cooper Rush est peut-être moins mauvais que ce qu'on imaginait, en tout cas en l'envisageant en sortie de banc. Surtout que pour le coup, il n'est pas forcément aidé par sa ligne offensive. Hein. La ligne offensive de Dallas, on le sait, il y a eu quelques pépins de blessures. C'est plus la grande ligne que c'était. Donc là-dessus, c'est pas forcément évident. Il a une escouade de receveurs avec quelques blessés. Bon, il a toujours six dilemmes. Et sur ce match, je trouve qu'on voit la différence aussi entre une équipe qui a un vrai receveur numéro 1 et une qui n'en a pas du tout. Parce que je trouve pas qu'il y ait une énorme différence entre ce que Daniel Jones et Cooper Rush font. Par contre, il y en a un qui peut compter sur CeeDee Lamb sur une grosse réception et l'autre qui a pas de receveur numéro un. Donc, je trouve que c'est aussi là où on voit un peu l'apport, en tout cas, de ce type de joueur. Et défensivement, moi, je trouve qu'ils sont sur le rythme qu'ils avaient commencé à avoir l'an dernier avec Dan Quinn en coordinateur défensif, hein, là-dessus. Donc, moi, je suis pas très surpris. Donc, du coup, pour répondre à ta question, j'irai plus sur Cooper Rush qui est pas décevant pour le coup.
Craig, Cooper Rush, il peut les tenir dans la course au play-off en attendant Prescott, presque.
Ouais, là, y a un bon duo de running back aussi au sol qui permet à Dallas d'avoir un petit peu d'alternance. Je trouve que globalement, on était très inquiet pour la ligne offensive, mais je trouve qu'elle fait le taf. Elle laisse du temps, en tout cas, à Cooper Rush de trouver les receveurs dont parlait Raph. Elle permet d'ouvrir des brèches, que ce soit à Elliott ou à Pollard. Donc, en soi, ça arrive quand même à tenir la route malgré les blessures et les départs de ce début de saison, mais défensivement, oui, c'est sûr que c'est extrêmement costaud et homogène ce qu'on voit. Et sur un match, on se dit, oh bah tiens, finalement, Micah Parsons, il a pas fait tant de dégâts que ça. C'est de l'autre côté avec DeMarcus Lawrence que ça déboule à tout va. Donc c'est sûr que ça va pas être une très très bonne équipe à prendre quoi qu'il arrive. Et c'est une équipe qui est capable de poser des problèmes, en effet, à des lignes encore en rodage. On l'a vu contre Cincinnati, on le revoit à nouveau contre les Giants. Donc, en effet, à ne pas enterrer. Et voilà, avec le retour de Dak Prescott, en effet, ça peut rapidement devenir une équipe potentiellement qualifiable en playoff, surtout dans cette NFC où on a du mal à avoir des repères sur les équipes de milieu de tableau.
Raphaël, tu as comparé Rush et Daniel Jones. La différence, c'est que Daniel Jones, il lance une interception. Rush, il n'en lance pas depuis deux matchs. Et j'ai l'impression que Jones, oui, il rappelle toujours un petit peu sa petite limite, quoi. C'est-à-dire que tant qu'il, tu vois, là, il construit des trucs d'abord, mais tant que t'auras Jones, bah, t'auras toujours cette petite limite-là, quoi.
Non, j'entends ce que tu voulais dire. Là où je les compare un peu, c'est que je pense que si Cooper Rush était derrière une ligne offensive aussi, en difficulté que celle qu'a eu Jones hier, parce que hier il a un record de pression sur la pomme. De mémoire, il est pas loin d'un snap sur deux où il prend la pression. Disons que si tu mets Rush derrière cette ligne offensive là avec pas de receveur star comme CeeDee Lamb, je suis pas certain que Cooper Rush fasse c'est beaucoup sûr. Mieux que Daniel Jones.
Oui, parce que Shepard se blesse en plus, non?
Ouais,
oui.
Shepard se blesse sans contact. Enfin,
Golladay va partir, donc ouais, c'est un peu compliqué quand même.
Non, je suis d'accord, c'est compliqué. Après, mais là où je te rejoins par contre, c'est que je pense que malgré tout, on a eu à peu près une idée du plafond de Daniel Jones et que je crois pas que Daboll en tire beaucoup plus. Et qu'à partir de là, la question, c'est est-ce que tu es suffisamment bien placé à l'intersaison pour aller chercher un quarterback que tu veux? Voilà.
Vikings 28, Lions 24. Les Lions menaient 24-14 au début du dernier quart. Ils menaient toujours de 3 points à 1 minute 14 de la fin quand ils ont tenté un field goal de 54 yards, raté, ballon Vikings et qui marque dans la foulée pour passer devant. Jared Goff finit par lancer une interception. Dan Campbell a dit qu'il regrettait de ne pas avoir tenté la 4e et 4 plutôt que le field goal. Raphaël, tu vas me dire qu'il aurait dû y aller.
Je sais pas, j'ai plus forcément tout le contexte en tête.
4e et 4 avec Jared Goff. Je te simplifie le contexte. Il n'y a plus Amon-Ra Saint-Brown et André Swift qui sont blessés.
Ouais, c'est pas évident, tu vois. Effectivement, je sais pas si c'est vraiment un choix que sur le moment que tu, avec tes deux skill players les plus talentueux, pas là. Je suis pas sûr qu'effectivement c'était le choix à tenter. Bon, après il le perd dessus. C'est un peu. Ouais.
Il le perd en défense derrière aussi.
Oui, hein. C'est ça.
Parce que t'es pas obligé de prendre un touchdown derrière.
Puis t'as une. Ouais, puis t'as Jared Goff qui a une dernière occasion de remporter le match. Bon, avec peu de temps, hein, mais il se fait intercepter malgré tout. Enfin, bon, beaucoup de choses derrière se passent quand même.
Moi, je commence à être agacé, et c'est pour ça que j'ai bien aimé la victoire des Jaguars. C'est parce que ces jeunes équipes qui ont tendance tout le temps à lâcher des avances ou à faire qu'un demi-début de match comme les Lions sur la première semaine, et puis ah, on revient, on y est presque, mais on l'a pas eu parce qu'on a joué que la deuxième mi-temps. Là, ah, on y est presque, on l'a pas eu parce qu'on a joué que la première. Ça m'agace profondément. Je sais, ce n'est pas une analyse, c'est juste que ça m'agace. Non, mais Dan Campbell, le numéro du coach sympatoche qui motive patati patata, c'est depuis l'an dernier, mais au bout d'un moment, ça ne produit pas des victoires. Et là, il commence plus à y avoir l'excuse du matos, quoi. Et là, Greg, il a l'air de jubiler.
Ouais, j'aime bien quand Alain, il sort des phrases avant. Je les pense et Alain les verbalise. mais non, mais c'est, franchement, enfin, au bout d'un moment, je ne veux pas m'acharner sur Dan Campbell. Encore une fois, je n'ai rien personnellement contre lui, mais ça va commencer à se voir quand même à chaque fois en conférence de presse. Ah oui, c'est vrai que là, ça là-dessus, on a merdé et tout. En plus, c'est dommage parce que, encore une fois, oui, le contenu, il s'améliore, notamment offensivement, c'est indéniable. Et là, encore une fois, au-delà du fait de tenter la 4e, punt ce ballon, bon sang. Pourquoi tu as besoin de rendre le ballon aux Vikings quasiment sur tes 50? Mêlé dos à leur en but pour continuer de leur mettre la pression. Ils ont réussi globalement à annihiler Justin Jefferson sur ce match-là, ce qui n'était quand même pas donné d'avance. Alors bon, après, voilà, ça a galéré un peu plus pour courir sur KJ Osborne en l'occurrence. Mais je veux dire, quand même, tu as moyen dans un match où Kirk Cousins n'est pas en confiance de les mettre vraiment dos au mur, pour vraiment essayer de tuer le match définitivement, un match que tu as dominé les trois quarts du temps, quoi. Donc encore une fois, c'est des scénarios qu'on voyait trop souvent l'année dernière avec les histoires de je pleure en conférence de presse, etc. J'ai rien humainement contre Dan Campbell, c'est sûrement quelqu'un de très sympathique, mais à ce niveau-là, ça devient rédhibitoire pour les Lions, quoi. Et ça fait trop longtemps qu'ils se traînent des head coachs comme ça qui ont des déficits de personnalité ou alors sont très expressifs mais sont pas capables d'assumer derrière, quoi.
J'aime bien quand on est sympa, tu sais, comme ça et qu'on dit j'aime l'homme, je hais le coach.
Oui, on sépare l'homme de l'artiste.
Oui, c'est
du coach,
ça.
Hein,
c'est on ça. Peut résumer comme ça, mais oui, c'est. Enfin, franchement, je trouve ça embêtant pour Détroit, quoi.
C'est ça. Les Vikings nous ont fait un petit match habituel, c'est-à-dire un match de Vikings où on va quand même chercher une victoire. Kirk Cousins commence un peu doucement et puis il fait hop, non, faut que je prenne quand même un contrat, rappelez-vous que je peux lancer des touchdowns. Il en lance un à la fin. J'ai du mal à tirer quelque chose de ce match parce que c'est les Vikings et que j'ai du mal à tirer quoi que ce soit des Vikings depuis
c'est
les deux ans.
L'inconstance dans l'inconstance, quoi.
Ils ont changé de coach, mais en fait c'est la même équipe,
c'est les mêmes.
Un coup une mi-temps, un coup une semaine, un coup une autre mi-temps, un coup l'attaque, un coup la défense.
Je vais pas spoiler l'émission de jeudi et je sais pas encore ce qu'on va dire dedans, mais franchement, Vikings Saints, il peut se passer tout à Londres cette semaine. Ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut être un 3-0 avec 5 interceptions par quarterback, et ça peut être un 45-43. Quoi. Ça peut être légendaire, ce match. Cardinals 12, Rams 20. Les Rams qui sont en mode on assure l'essentiel. Touchdown de Cam Akers pour passer à 29 dans le troisième quart avant de tenir les résultats face aux Cardinals. Les Rams qui marquent sur leurs trois premières possessions et moins derrière. Est-ce qu'ils continuent de se mettre en jambes?
Je sais pas, en tout cas, à mon sens, c'était quand même une sortie un peu plus aboutie, en tout cas moins inquiétante que ce que j'ai vu lors des deux premières semaines. C'est peut-être à relativiser avec l'adversaire du week-end, mais en l'occurrence, oui, ça aurait pu être beaucoup plus fringant. On s'est peut-être un petit peu fait peur pour rien avec quelques erreurs évitables. Je pense bien entendu à ce fumble de Cam Akers en bonne position. Mais c'est vrai que tout n'est pas complètement au beau fixe, notamment offensivement, et il y a beaucoup de choses à trouver. Il y a des solutions à trouver du côté des Rams. Très clairement, Robinson n'arrive pas forcément avec le statut qu'on pouvait espérer quand il est arrivé du côté de Los Angeles. Donc voilà, on compose avec ces éléments-là. Tout n'est pas rassurant, mais ça permet aux Rams quand même d'être à 2-1. En ayant eu malgré tout deux adversaires, on va dire, plus ou moins à leur portée, vu ce qu'on voit en début de saison.
Raphaël, l'essentiel, c'est la gagne.
Oui, oui, oui. L'essentiel en ce début de saison, je crois qu'effectivement, c'est la gagne. Ils restent accrochés ils prennent pas de retard par rapport à des Raiders, par rapport à ce genre d'équipe, même si c'est pas la même conférence, tout ça, mais voilà, qui peuvent déjà prendre un peu de retard. Ouais, tout est en rodage, l'attaque, la défense peut-être un peu moins, mais l'attaque est en rodage. Bon, après, encore une fois, moi, j'ai en tête que l'an dernier, ils font pas une saison régulière impériale.
Ils sont même pas premier de division. Hein.
Mais non, c'est ça. Donc,
quoique, ils repassent premier, je pense, à la fin de la saison régulière.
C'est pas une équipe première de NFC comme on en a vu, comme on en voit presque tous les ans, au final. Donc, bon, moi, je c'est un peu toujours la même chose. J'attends de voir.
Ils ont fait l'essentiel en défense, c'était de priver les Cardinals de profondeur. Ça a donné des drives très longs, mais qui se terminent par des field goals pour Kyler Murray et compagnie. Marquise Brown est à 14 réceptions pour 140 yards, mais ça donne du coup un peu le 14 réceptions pour arriver à 140 yards. Donc, ça fait beaucoup de réceptions pour arriver à 140 yards. Ça manque d'explosivité quand même, ces Cardinals. Moi, on m'a dit Cliff Kingsbury, génie offensif, mais faire des drives de 20 minutes pour prendre un field goal,
c'est pas qui t'a dit ça, mais c'est bien foutu de ta gueule. Pardon.
Tu vois, il y a plein de coachs interchangeables qui peuvent faire des drives de 20 minutes pour aller chercher un field goal.
Oui, non, mais de toute façon, j'ai plus les stats sous les yeux, mais Kyler Murray, c'est pas 5 yards par passe.
5,4.
Ouais, c'est ça, donc c'est pas ouf non plus. Hein.
De comparaison, Stafford, c'est 10 tours.
Voilà, encore une fois, on va rappeler une énième fois que voilà, tous ces receveurs ne sont pas là, etc. Mais c'est en fait ce qui est problématique, c'est que c'est pas normal d'être aussi Kyler Murray dépendant, quoi. On va ressortir l'histoire des Raiders, la fin de match face à Las Vegas, où peut-être, en exagérant un petit peu, Arizona doit perdre 9 fois sur 10. Là, en l'occurrence, il renverse le cours des événements avec un Kyler Murray qui marche sur l'eau, mais ça peut pas marcher toutes les semaines non plus, c'est pas possible. Et là, en l'occurrence, contre Kansas City, ils n'ont pas existé. Et contre les Rams, ça a été extrêmement compliqué. En effet, tu l'as dit, avec un manque de concrétisation, notamment dans les zones importantes. Et offensivement, alors défensivement, tout n'est pas parfait non plus. Mais alors, offensivement, c'est pas possible d'être aussi dépendant d'un seul joueur.
Je rejoins le côté dépendant. Et effectivement, Kingsbury pose question. Enfin, je vous invite, ça tournait sur. J'invite nos auditeurs, en tout cas, ça tournait sur les réseaux sociaux, notamment la carte des routes courues, des tracés courus par Marquise Brown. 90% des tracés courus, il est aligné à gauche de la ligne offensive et il part vers l'extérieur. Et sur 5-10 yards, c'est 90% des tracés qui courent. Je trouve qu'effectivement, si Kingsbury c'est vraiment un génie offensif. Il me semble que Marquise Brown, tu peux de temps en temps essayer de l'envoyer vers le slot, de temps en temps vers la profondeur, tu peux tenter deux, trois trucs, tout le temps les mêmes courses.
On sait que sur du jeu vertical, Marquise Brown, il n'est pas efficace, hein, c'est bien connu.
Voilà, donc effectivement, ça pose question sur Kingsbury, clairement.
Pour nos nouveaux auditeurs, ceci était de l'ironie de la part de Grégory. Bears 23, Texans 20, match gagné par les Bears grâce à une interception de Roquan Smith en toute fin de match, suivi par le field goal de la gagne. Les Bears sont à 2 victoires et 1 défaite. sans quarterback et sans ligne.
Je l'avais dit.
Eh bien, c'est beau. Et j'ai envie de dire respect à Matt Eberflus parce qu'on parlait d'équipes qui n'ont pas d'identité offensive. Là, je vais te dire qu'à 40 courses pour 17 passes, 281 yards au sol dans ce match, 106 pour Justin Fields, 5 sacs pour 8 passes complétées quand même. Hein. Donc, on est quasiment sur de l'équilibre sac-passe complété. Matt Eberflus s'adapte clairement très bien à ce qu'il a. Et moi, je veux le féliciter. Pour moi, c'est la grande leçon de ce match. On a eu une discussion sur le chat de la rédaction aujourd'hui. Grand coach, pas grand coach, etc. Moi, j'ai dit, les coachs qui viennent avec leur système, ils se cassent les dents. Ceux qui s'adaptent, ils gagnent. Bah, là, Matt Eberflus, respect. Hein. Parce que...
Oui, enfin après, voilà, j'ai dit en début de saison que j'étais optimiste pour les Bears avec toujours les mêmes qualités, à savoir la défense. J'avais très peu de chances de me tromper. C'est sûr que contrairement à Matt Nagy, en tout cas, le jeu au sol est beaucoup plus constant depuis le début de la saison, hein, notamment avec un Khalil Herbert qui a été inarrêtable sur ce match-là. Maintenant, c'est... Enfin, honnêtement, je sais qu'historiquement, Chicago, ça n'a jamais proposé des grands quarterbacks ou des attaques aériennes transcendantes. Mais là, c'est indigent ce qu'on voit en termes de production dans les airs. Ils ont quasiment moitié moins de yards dans les airs depuis le début de la saison que la 31e équipe.
Mais toi qui suis, Fields, il était déjà comme ça à la fac? Il avait si peu de ballons à lancer?
C'était du jeu hyper vertical à Ohio State. C'est son jumeau c'est son jumeau maléfique qui était à Chicago. Non, mais voilà, après, encore une fois, je veux bien que le casting autour de lui soit pas parfait, que la ligne offensive soit un peu expérimentale avec beaucoup de jeunes, beaucoup de rookies, mais c'est pas possible. C'est pas... Il fait quasiment plus de yards au sol qu'à la passe.
Ah bah, il fait. Plus... Ah, Fields.
Oui, Fields, pardon.
Non, mais oui, il y a un truc un peu étonnant quand même.
Donc tu peux pas. Et sur ce match-là, Chicago, mine de rien, encore une fois, c'est très bien qu'ils arrivent à s'imposer. Ils le font pour la deuxième fois contre San Francisco. Ils avaient été menés au score. Ils ont fait un rush en fin de match. Là, il me semble qu'ils sont quasiment menés tout le match par Houston. Et il y a en effet ces circonstances qui font qu'avec l'interception de Roquan Smith, bah, ça tombe dans le bon sens. Mais ouais, c'est chaud quand même, Chicago. Il va falloir qu'à un moment donné, Matt Eberflus, il arrive quand même à développer un peu l'attaque aérienne parce que c'est pas beaucoup mieux qu'avec Matt Nagy malgré tout. Hein.
Alors, en tant que préposé aux purges, je confirme, hein, c'était absolument laid à regarder. Raphaël, je parlais des coachs parce que mine de rien, en vrai, Lovie Smith en face, il a plus de matos d'une certaine manière. Il doit pas perdre ce match face à ça.
Plus de matos. Enfin, je sais pas, vous avez une hype sur les Texans depuis l'intersaison avec Victor que je n'explique pas.
Attention, quand je dis plus de matos, je sais pas, tu compares.
Je sais pas, justement, dis-moi.
Moi, je pense que justement, il s'écroule parce qu'il y a des limites d'effectifs. Je te laisse finir ton propos. Alors.
Quand je dis plus de matos, c'est-à-dire que là, je compare, je sais pas, une Renault 5 rouillée et une 205, tu vois, et les deux ont 25 ans et des problèmes de boîte de vitesse et tout. Ils ont tous les deux des mauvaises équipes, mais je trouve que sur ce match, Smith, il doit aller le chercher quand même, quoi.
Oui, il doit aller le chercher de par le scénario du match, de comment ça s'est passé, etc. Ça, j'en conviens.
Après, je te concède que...
Moi, je ne suis pas d'accord sur les effectifs. Enfin, l'effectif des Texans, il y a... Enfin, on a eu ce débat plusieurs fois, mais enfin, je ne vois pas ce que vous voyez dans l'effectif des Texans, en fait.
Alors, ceci étant dit...
À Chicago, un joueur comme Roquan Smith, il n'y a aucun joueur équivalent chez les Texans.
C'est vrai. Non, mais alors, j'allais te dire, ceci étant dit, ma hype Texan est quand même en train de largement se calmer. Davis Mills me rappelle de plus en plus la hype Case Keenum. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a quelques années, il y a Case Keenum qui était rookie au Texan et on disait, ouais, c'est incroyable, c'est un mec du coin, il est de Houston et vraiment, ça va être une belle surprise. Il n'est pas été drafté haut, mais ça va être une belle surprise. Et je sens qu'on se dirige un peu vers le même sort et qu'on verra Davis Mills sur le banc des Browns d'ici 7 ou 8 ans.
Alors, je vais de nouveau enfiler mon costume de la personne qui va essayer d'apporter un juste milieu. En effet, je vous rejoins. J'étais pas forcément hyper hypé sur Davis Mills, enfin en tout cas pas dans les proportions dans lesquelles c'était décrit, hein, parce que on en plaisante off avec Victor, mais il m'annonçait quand même que les Texans auraient limite une fiche meilleure que celle des Jaguars.
Ah ben il a annoncé qu'ils étaient
en course pour les playoffs.
Ouais. Il y a un restaurant en jeu d'ailleurs, hein, donc bientôt je serai invité par Victor, je peux balancer la l'info.
Ok.
mais au-delà de ça, voilà, je pense qu'il faut aussi lui laisser du temps, c'est sa deuxième saison et encore une fois, le casting globalement est pas ouf. Parce qu'on est parti sur une totale reconstruction à Houston et tout n'est pas merveilleux. Donc déjà, ils arrivent à développer un petit peu Damien Pierce au niveau du jeu au sol, je pense qu'il faut pas non plus fracasser Davis Mills parce qu'en effet, il y a une perte de balle qui plombe vraiment Houston. Mmh. Mais malgré tout, c'est aussi lui qui permet aux Texans de rester longtemps dans le match et de bonifier notamment mon travail de la défense avec un Jerry Hughes qui s'intègre extrêmement bien dans cette défense de Houston. Et notamment un Jalen Pitre, le safety rookie, qui a été absolument partout, je crois, avec deux interceptions et un fumble recouvert. Donc voilà, c'est de bon augure pour la suite. Après, est-ce que ça suffira pour le conserver la saison prochaine? Ça, c'est un peu plus interrogatoire. Merci.
Non, mais pas sûr non plus.
Je suis pas si loin.
C'est un peu plus incertain. C'est un peu plus incertain.
Oui, merci Alain.
Parlant de bonnes grosses purgeasses, Panthers 22, Saints 14, celle-là, elle était pour Raphaël. Raphaël, les Panthers menaient 13-0 à la pause, 22-7 dans le dernier quart, et ils ont intercepté James Winston deux fois dans le dernier quart. Merci la défense, du coup, si je comprends bien Carolina. Là.
Ah oui, complètement. C'est une victoire défensive de Carolina qui a su faire les erreurs qu'il fallait à James Winston et à l'attaque des Saints. Victoire défensive parce que de l'autre côté Carolina fait pas grand chose offensivement, hein. Il y a un touchdown un peu miraculeux où le receveur le nom m'échappe, mais le receveur des Panthers réceptionne une passe de 5 yards de Mayfield et la transforme en gain de 67 yards et touchdown.
La Vizcachino,
et c'est ce qui fait la différence en termes de scoring. Mais offensivement, encore une fois, les Baker Mayfield et Matt Rhule n'ont rien proposé, donc oui, la défense a fait la différence. Et c'est celle des Saints qui a pas sucré de turnover, alors que des fois ils arrivent à le faire. Voilà, c'est parmi les deux bonnes défenses, c'est celle qui a sucré les turnovers qui l'emporte. Et
leur premier touchdown est défensif pour les Panthers, donc il y a qu'un seul touchdown offensif. C'est leur seul touchdown offensif. Merci les Saints aussi un petit peu quand même, puisque tu l'as dit, il y a trois ballons perdus. James Winston, moi qui bénéficie toujours d'un bénéfice du doute, qui m'interpelle. Bon, on en est à 4 touchdowns, 5 interceptions depuis le début de l'année, mais je suppose qu'il y a encore des excuses.
C'est pas le premier, hein, tu sais, il y en a eu dans l'histoire. Hein,
On en est à 9 ballons perdus en 3 matchs pour les Saints. Hein. On est sur le plus gros total NFL. Bon.
Bah alors déjà, c'est ça. C'est que je pense que sous l'ère Peyton, on va dire, la grande clé des Saints, c'était d'être capable de provoquer des pertes de balles et de gagner assez souvent cette guerre des turnovers. Là, j'ai l'impression que déjà, d'une part, dans les tranchées, ils sont dépassés par les événements. La ligne offensive est clairement moins bonne et ils n'arrivent pas à générer suffisamment de pression par rapport aux adversaires, alors que pourtant ils n'ont pas affronté que des foudres de guerre depuis le début de la saison. On me dira ils ont affronté Tampa en deuxième semaine, mais Tampa avec une ligne offensive qui est un poil expérimentale depuis le début de la saison. Sinon c'est quand même que des adversaires de division dans une division qui n'a pas l'air non plus hyper fandarde. Mais ouais, enfin moi je suis désolé, tu vois, pour rebondir, parce que de toute façon là pour le coup on va rebondir un petit peu. Il y avait des vibes un peu de Chicago-Houston dans ce Carolina-New Orleans, avec du coup Carolina qui adopte la Bears mode à compter avant tout sur la défense pour s'imposer. Si tu prends de l'autre côté, autant Davis Mills, je vais trouver des circonstances atteignantes, mais là, je ne peux plus en trouver pour Jameis Winston. Je suis désolé, le casting autour de lui, il n'est pas infamant non plus.
Ah non,
certes, c'est le fumble d'Alvin Kamara qui occasionne le premier touchdown de Carolina sur ce match-là, mais tu ne peux pas faire ce que tu fais avec le matos que tu as à disposition, même avec une ligne qui est moins bonne. Tu as quand même des receveurs de bon niveau avec un Chris Olave qui progresse. Enfin, c'est pas possible de proposer une bouillie comme les Saints proposent. Ils étaient déjà, avant même que Winston se blesse, ils étaient déjà en fin fond des classements en termes de yards la saison dernière. Donc, passer de Drew Brees à Jameis Winston, là, ça commence un petit peu à se voir, quoi.
Quand tu signes Winston, c'est la vie que tu choisis.
Pour une équipe qui avait deux premiers tours de draft, c'est ça, il y a quelques mois, je ne vais pas me tromper, mais il me semble que Chris Olave et Trevor Penning, ils avaient deux premiers tours de draft. Alors, les quarterbacks n'avaient pas la cote, mais en l'occurrence, écoute, ils vont se débrouiller. Ils vont peut-être lancer Andy Dalton à un moment donné, qui sait.
On termine. Je l'ai supposé l'autre fois et on m'a dit que j'étais fou.
Là, moi, j'y crois de plus en plus.
c'est quoi? C'est dans la preview, non? C'est Victor qui m'a recadré là-dessus l'autre fois? Je ne sais plus. Bref, mais moi, je suis désolé. Hein, c'est pas pire. Hein.
Dalton, s'il ne joue pas en prime time, ça devrait le faire.
Voilà. Seahawks 23, Falcons 27. On termine par le moment de Greg. Geno Smith intercepté sur quatrième tentative alors qu'il tentait d'aller arracher la victoire en fin de match. Et les Falcons qui décrochent leur première victoire de la saison. Greg, ça continue de tourner quand même offensivement, notamment pour Arthur Smith et Marcus Mariota.
C'est sympatoche, ça va. Drake London, ça commence à se mettre en route doucement. Je continue d'espérer m'être trompé lamentablement lors de la draft. Vu que j'étais pas un grand fan de joueur, on voit enfin un Kyle Pitts vraiment qui a été vraiment la machine à match-up qu'on connaît, et qu'on aura la Et j'avoue que Cordarrelle Patterson, c'est bluffant parce que qu'il soit capable de performer en couteau suisse la saison dernière, j'étais pas surpris. Mais que là, en tant que running back pur, il claque deux matchs de suite à plus de 100 yards. C'est quand même un phénomène auquel je ne m'attendais pas forcément. Donc voilà. Donc si ça continue offensivement et qu'Arthur Smith drive bien tout ça, tant mieux. Défensivement, c'est un peu plus laborieux et ça concède encore beaucoup. Mais encore une fois, de toute façon, avec l'effectif qui est en place, il ne faudra pas s'attendre à avoir une défense top 5 de la Ligue toute l'année. Donc voilà, va falloir essayer de s'habituer à marquer au moins 20-25 points à chaque fois pour espérer gagner. Et là, en l'occurrence, c'est chose faite, vu qu'ils n'étaient pas passés si loin que ça face aux Saints et dans une moindre mesure face aux Rams la semaine dernière.
Patterson, c'est 141 yards en 17 courses. Il a 8,3 yards par course en plus, donc ça a été vraiment impressionnant. Raphaël, Greg l'a bien résumé, on a une équipe d'Atlanta qui va vivre et mourir par son attaque là, cette année.
Oui, effectivement.
C'est un peu l'histoire d'Atlanta. Non
ouais, après, comment dire, je trouve qu'il y a quand même deux, trois trucs intéressants en défense malgré tout. Hein. Je ne dis pas que c'est la défense qui va leur permettre d'aller gagner des matchs non plus. Mais quoi que sur celui-là, à la limite, c'est la défense qui fait le dernier play décisif hein, pour l'emporter.
Oui, il y a un sac passé par Jarrett notamment. Il y a l'interception de Richie Grant. Ouais.
Jarrett revient bien quand même. L'an dernier, c'était un peu plus compliqué. Il fait un vrai bon début de saison. Donc, il y a des signes positifs. Mais du coup, moi, je continue sur un peu mon propos des deux premières semaines. Je trouve que ce que propose Arthur Smith avec les Falcons, c'est pas inintéressant par rapport aux qualités et aux défauts de cet effectif. Donc, je trouve que c'est sur la bonne voie.
Très bien. Et pour Seattle, c'est moins sur la bonne voie puisqu'il s'incline une nouvelle fois. Là, il y a pas vraiment de. Enfin, c'est dur en défense et en attaque, on sait à quel point c'est limité.
Ouais, moi, encore une fois, on va taper à bras raccourcis. Enfin, je parle pas de nous spécialement, mais il y en a beaucoup qui vont résumer ça à Geno Smith et notamment son interception. Mais il est passé où le jeu au sol de Seattle?
Ouais, j'allais dire, il est honnête, Smith.
Il me semblait que ces dernières années, même avec Russell Wilson, l'identité de Seattle, c'était plus le jeu au sol. Là, t'as le retour de Kenneth Walker, t'as Rashan Gary qui était quand même en forme en fin de saison passée. T'as rien. T'as une ligne qui est dépassée par les événements avec des flags un peu fâcheux, notamment pour Damien Lewis, pardon. Donc, que la défense soit pas bonne en soi, en effet, elle s'est un petit peu déplumée au fil des années avec notamment le coup de grâce final, le départ de Bobby Wagner à l'intersaison dernière. Mais là, concrètement, offensivement, c'est pas normal que tu joues pas un minimum sur tes points forts, hein, sur un de tes points forts, parce qu'en l'occurrence, ils ont quand même deux bons receveurs, mais sur un de tes points forts qui est le jeu au sol. Et pour l'instant, depuis le début de la saison, je le vois pas.
Est-ce que c'est pas l'avantage d'être un coach de 70 ans qui a déjà une bague, tu vois, tu peux troller.
Ouais. Bah après ça
c'est parti, tu dis maintenant on va plus courir.
Après ça c'est pas la première fois que j'en parle, mais c'est vrai que c'était beaucoup éclipsé, on dira, par les performances de Wilson et par le fait que Carroll avait gagné un Super Bowl avec Seattle très tôt, mais malheureusement, c'est pas depuis cette année qu'il y a des choix, il y a des décisions de Pete Carroll qui sont assez discutables. Et malheureusement, il y a des nombreuses reprises, il y a des situations où on le sent un petit peu passif, incertain. Et ça risque de se payer cash cette saison avec une équipe de Seattle qui est beaucoup moins fringante des deux côtés du ballon.
Après, l'identité au sol de Seattle, c'est quand même un bien grand mot. Quand je vois les stats et que je vois la fiche, moi, ce qui me rend ouf chez Seattle, c'est quand je vois les noms Rashad Penny, DJ Dallas, Kenneth Walker, Travis. J'ai l'impression qu'ils ont signé 400 coureurs ces 10 dernières années et qu'il n'y en a jamais vraiment eu un qui s'est imposé.
Ah, t'as Chris Carson qui tournait quand même pas mal ces dernières saisons. Après, les blessures l'ont rattrapé. Certes, mais en tout cas,
Penny,
ça tournait un peu mieux.
Penny, c'est premier tour. Ouais, Walker, c'est quoi? Deux, trois?
Deuxième, de mémoire.
Enfin, arrêter au bout d'un moment.
Non, mais on est d'accord. Après, mais justement, encore plus, tu vas dans mon sens. Ils abusent du fait de rafter des running backs. Utilise-les.
C'est très bizarre. Raphaël, est-ce que tu veux ajouter un mot de conclusion sur les Seattle Seahawks?
Pas tellement.
Et ben, on va terminer.
Bon courage.
Très bien.
Ouais, voilà, bon courage. Allez.
Ça me paraît être une conclusion idéale de cet épisode numéro 512. Merci beaucoup, Raphaël. On vous remercie de nous écouter. On vous remercie si vous nous soutenez sur Tipeee. Je m'excuse, j'ai oublié de faire la liste cette semaine. Je promets que je la ferai la semaine prochaine. Mais les contreparties sont en cours d'envoi. Elles partiront dans la boîte aux lettres très bientôt. Merci beaucoup de nous suivre aussi sur les réseaux sociaux, à TD Actu sur Twitter et Facebook, à TDActu Actu sur Instagram et TD Actu sur TikTok si vous y êtes. TDActu.com pour toute l'actu de la NFL. On se retrouve jeudi matin avec Victor Roulier pour faire la présentation de la semaine 4. Plein de bonnes choses puisqu'il y a un match à Londres et puis il y a un choc entre les Chiefs et les Buccaneers, un remake du Super Bowl quand même, mine de rien. Et aussi, si vous aimez ça, on va casser beaucoup de sucre sur le dos de Kyle Shanahan. En tout cas,
ça m'étonne avec Victor.
Voilà. En tout cas, on va parler de Kyle Shanahan. Je ne spoil pas, mais il se pourrait que ça prenne une tournure un petit peu négative par moment. Voilà, on va dire ça comme ça. Merci beaucoup, messieurs. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission. Ciao, ciao.
Les meilleures analyses, fromage et jeux de mots, tout sur le foutu est en TDAQ. Le mardi, le jeudi, tailgate au risotto, les meilleures recettes en TDAQ. Fumble pour JJ Watt, Bismuth pour Marshall Lynch, Procast Global Beckham, Tom Brady quarterback, calé sur le fauteuil, option Madame Irma, à la fin on compte les points et on finit en requin.